J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air.
Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table.
Le gars est fou de joie, il veut tout vendre, liquider ses avoirs, prendre son fric et partir à toute jambe. Il ne doit surtout pas le faire. Bref, c'est virtuel, mon vieux.
Ok, tu vois.
Jusqu'où ça ira, hein ?
Il s'agit de pognon, petit. Comme à la balançoire, un jour tu montes, un autre jour tu descends. Money.
Le 6 mai 2010 aurait pu être un jour comme les autres à Wall Street. Pourtant, ce jour-là, quelque part en début d'après-midi, un trader dont la postérité, qui a bien d'autres choses à faire, n'a pas retenu le nom, ordonne la vente de 75 000 contrats à terme pour une valeur proche de 4 milliards de dollars. Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer ce qu'est un contrat à terme, mais 4 milliards de dollars, je pense que vous comprenez de quoi il s'agit. L'ordre est exécuté en moins de 20 minutes, ce qui, même à l'échelle de Wall Street, où un millième de seconde c'est déjà beaucoup, semble anormalement rapide. 3 minutes après ces 20 minutes, les logiciels de courtage automatisés qui, vous le savez si vous m'avez déjà écouté, assurent l'essentiel des transactions sur les marchés, enclenchent toute une série d'opérations découlant de la précédente, opérations qu'on pourrait traduire dans un langage informatique sophistiqué par l'expression suivante « si, alors, sauf qui peut ». Autrement dit, les logiciels commencent eux aussi à vendre les mêmes valeurs, puis d'autres. Comme en retour, il n'y a pas de logiciel qui décide automatiquement d'acheter des valeurs qui s'effondrent, en 36 minutes, montre Philippe Patek en main, 862 milliards de dollars disparaissent. Entre guillemets, disparaissent. Comme nous sommes aux États-Unis, où vous pouvez tirer sur un noir dans le dos alors qu'il court sans déclencher pour cela une enquête, mais où dès qu'il s'agit d'argent, là c'est du sérieux, l'incident donne lieu à une commission qui mène pendant 5 mois des investigations approfondies. Première leçon, quand quelqu'un commence à vendre, tout le monde en fait autant. 5 mois d'enquête, vous êtes sûr ? Même l'agent d'un joueur de foot du PSG, il sait ça, alors. Deuxième leçon, qui est ce « quelqu'un » ? Même si ça m'écorche la langue de le dire, je veux bien croire que si cela avait été des opérateurs humains, des traders donc, ils auraient pu flairer un mauvais fonctionnement, vérifier rapidement avec leurs collègues restés anonymes, etc., etc. Mais ce ne sont pas des opérateurs humains qui sont entrés en action au bout de ces fameuses 20 minutes. Ce sont des machines. Le mini-crash du 6 mai 2010 a été déclenché par des bouts de silicium amoureusement programmés par des gars, ce ne sont que des gars, c'est sûr, qui, si vous voulez mon avis, pourraient mieux occuper leur bref passage sur Terre qu'à programmer des trucs aussi élémentaires que « si, alors, sauf qui peut ». Troisième et dernière leçon, entre 14h et 15h environ, ce 6 mai 2010, je ne sais pas où vous étiez, et moi non plus je ne m'en souviens pas, et même si je m'en souvenais, ça ne vous regarde pas, non mais, ce qui revient à dire que le mini-crash n'a rien provoqué de notable dans le monde réel, contrairement à ce que veulent nous faire croire jour par jour, heure par heure, tous les chroniqueurs boursiers qui, eux aussi, feraient bien de mieux occuper leur bref passage sur Terre qu'à des choses comme faire le caniche parlant pour milliardaires. Je vous sens énervé. Vous êtes en train de vous dire « Mais alors, à quoi on peut bien occuper son bref passage sur Terre ?» Je ne sais pas, moi, à écouter mes chroniques.
J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air.
Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table.
Le gars est fou de joie, il veut tout vendre, liquider ses avoirs, prendre son fric et partir à toute jambe. Il ne doit surtout pas le faire. Bref, c'est virtuel, mon vieux.
Ok, tu vois.
Jusqu'où ça ira, hein ?
Il s'agit de pognon, petit.
Comme à la balançoire, un jour tu montes, un autre jour tu descends. Money.